Nous sommes le 21 septembre 2021, vous écoutez La Route des Jeux, la radio libre des canards sucristes, on est à l'épisode 17, c'est la saison 3. On a fait deux ans de podcast, on est super content d'entendre ce super générique. Il était incroyable. Il est toujours aussi incroyable, ça sent les vacances.
Ouais, exactement.
Mais ouais, je suis sur le soleil, les bananiers, les cocotiers, tout ça, ouais. Les pirates.
L'évasion fiscale aussi, quoi.
C'est complètement pirate, ça fait complètement rhum. Vous l'avez entendu, je suis pas tout seul. On accueille pour la première fois Alexandre.
Salut, enchanté. Alexandre. Alors donc je suis le grand frère de Xavier en fait quoi.
Et c'est voilà. Pas le Alexandre de d'habitude, c'est le frère de Xavier, voilà.
Ouais, c'est mon petit nom, enfin tout le monde m'appelle Balou en fait quoi, pour l'histoire.
Salut Balou, merci de te joindre à nous, et donc on retrouve aussi un habitué, Guillaume.
Salut.
Salut.
Ah, t'es Guillaume. Un habitué toi, t'en as déjà pris toi Guillaume de ça toi?
Ah bah ouais, et pas qu'une fois.
Oh là 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 là.
Pas qu'une fois, et on vous. Enfin, d'ailleurs, je tiens à dire, un des derniers numéros qu'on a sorti sur les jeux de rôle du Seigneur des Anneaux, je vous conseille si vous ne l'avez pas écouté. J'étais assez satisfait du résultat, je trouve qu'on a été assez complet, et c'était à mon avis un de nos meilleurs numéros. Allez,
ouais, il était très bien, je l'ai réécouté, et je suis du même avis que toi. C'était.
Ah bah,
bien,
Guillaume, bien Seigneur des Anneaux, il est client, hein.
Ouais, un peu.
Il est client, ouais. Bah, c'est pas toujours super agréable de se réécouter, mais là, pour le coup, c'était bien sympa. C'était bien sympa. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour parler d'un petit jeu mineur pas trop connu.
Mm-hmm. Oui,
vient de sortir.
Comment ça s'appelle déjà? C'est quoi le...
C'est quoi Pokédic, un truc
c'est
comme
Pokémon,
ça.
C'est Pokémon. On va vous parler de Magic, The Gathering, donc l'Assemblée en français. Un jeu qui va fêter ses 30 ans dans quelques années.
Concentration et réflexion pour ces 1500 passionnés. Tous jouent à Magic the Gathering, trois mots anglais, pour désigner ce jeu de cartes américain, l'un des plus célèbres au monde. Un jeu de stratégie comme les échecs, où le gamer pioche ses cartes comme au poker et les collectionne. Magic, Florian l'a découvert à son adolescence, une vraie addiction. Professeur de mathématiques le jour, joueur le soir, il a fait le déplacement à Lyon pour affronter d'autres amateurs.
At Magic the Gathering's research facility, experts test combat strategies using subjects selected from the general public.
Geez, where do you get these kids?
Play my card, you moron!
I'm unblockable!
What are you waiting for?
An invitation?
Magic the Gathering, the trading card game.
You ready to feel the pain?
Alors, on parlait de drogue, là, carrément, on rentre dans le vif du sujet parce que c'est vraiment une drogue dure. Hein. Moi, j'ai commencé en 94 et j'ai toujours pas décroché encore.
Bah, du coup, on est parti. Hein. Donc, Magic, c'est 93. Il arrive un an après en France.
Ouais, exactement.
Donc, Alexandre, c'est Richard Garfield.
Voilà, c'est Richard Garfield, un professeur de maths, fan de Donjons et Dragons. Donc bah là, on est pile poil hein, dans les années, hein, dans l'âge d'or du jeu de rôle, à le début de l'Appel de Cthulhu. L'Appel de Cthulhu, c'est un petit peu plus tard, mais là, en plein dans Donjons et Dragons, en fait, quoi. Et donc, c'est un prof de maths qui s'intéresse à créer des jeux. Mais bon, comme il n'a pas beaucoup d'argent, et bah, son jeu, il a créé un super jeu qui s'appelle, enfin complètement inconnu, qui n'est pas sorti encore en 93, qui s'appelle Robo Rally. Et pour financer son jeu, bon, bah, avec son pote, il décide de créer un jeu transitoire, facile à produire, qui ne coûte pas grand-chose, quoi, genre un jeu de cartes. Et donc Richard Garfield a l'idée de copier le truc des cartes de baseball aux États-Unis qui étaient des cartes collector qui pouvaient atteindre des milliers et des milliers d'euros. Bon, lui, il pensait pas une seule seconde que son jeu allait rentrer dans cette partie économique comme ça. Par contre, l'idée, c'était à la fois que ce soit un jeu de cartes à collectionner et à la fois qu'on puisse jouer avec, en fait. Et ça, ce concept-là était complètement nouveau. Et donc,
C'est vrai qu'à prototyper un jeu de cartes, c'est pas très cher, c'est assez simple. Donc, c'est typiquement le genre de jeu où on peut expérimenter assez vite, en fait.
Exactement. On peut jouer assez vite, on rentre facilement. Alors, du coup, des dragons, des forces obscures, des forces de tromperie, tous les ingrédients du jeu de rôle, les orques, les nains, les elfes, tout est là. Hein. On est vraiment dans l'univers.
C'est donjons et dragons, quoi.
Ouais, c'est donjons et dragons, jeu de cartes, en fait. Hein. Enfin, ça n'a jamais été balancé comme ça, mais c'est un petit peu ça, quoi. Et devant le succès incroyable de son jeu, Roborally sortira bien plus tard parce qu'en fait, il a été complètement éclipsé par ce succès inattendu, en fait.
Et Roborally qui reste un jeu super sympa, alors qu'il a un peu vieilli sur certaines, sur la longueur notamment, mais qui est un jeu. Alors c'est rigolo, c'est un jeu de programmation, Roborally. Juste on fait une petite digression parenthèse.
Je l'ai acheté aussi, ouais. Il a été réédité il y a quelques années, il y a genre 3 ans, là, j'ai profité pour acheter la réédition.
Et moi, je l'ai racheté à Xav, moi.
Il y a un plateau, moi j'aime beaucoup, il y a un plateau avec des tapis roulants, et on joue des espèces de tanks qu'on va programmer à l'avance. Et en fait, on va tous dérouler nos ordres programmés.
Tourner à gauche,
tourner à gauche, etc. Et dès qu'il y a un ordre qui merde, ça va pourrir toute notre programmation.
Et puis tu pousses les robots des autres qui avaient prévu de continuer tout droit, mais en fin de compte, ils vont dans le vide. Enfin, c'est n'importe quoi.
Donc c'est un jeu qui est long parce que du coup, ça marche jamais comme tu veux. Et comme c'est un jeu, en fait, c'est un jeu de course où faut passer par des waypoints, voilà. Comme on n'arrive pas à les passer, c'est interminable. Mais moi, j'ai très bons souvenirs de ce jeu.
C'est assez rigolo quand même.
Et il va sortir d'autres jeux après, on va peut-être en parler, mais ce qui est marrant, c'est qu'il a fait des jeux très différents dans sa...
Par exemple, une bonne réussite aussi, alors que j'ai acheté le jeu, bon, je suis pas un grand fan, hein, mais King of Tokyo, ça, c'est assez rigolo. Des parties rapides, comme ça, c'est assez chouette, quoi.
Bah, sur ce format-là, ouais, c'est plutôt une réussite, ouais.
Au final, je crois qu'il a sorti une vingtaine de jeux, dont le Keyforge, un des derniers en date, pareil, un jeu de cartes. Alors bon, moi je suis tellement un maniaque de Magic que j'essaie pas trop les autres jeux de cartes parce que ça m'intéresse pas spécialement, à tort, hein, parce que j'ai fait quand même des très belles découvertes comme Dominion, comme Seven Wonders, mais Keyforge, bon, je sais pas si ça restera dans l'histoire.
Non, j'ai bien aimé, mais j'ai pas forcément un goût de reviens-y.
Pareillement, voilà. Ouais. J'ai bien rigolé une fois, jusqu'à ce que je me fasse exploser par le deck d'Axel, la cousine de ma femme, là, qui avait un deck complètement imbattable. Je fais OK, d'accord, c'est bon. Je vais pas acheter 15 paquets avant de pouvoir te battre, quoi.
Donc, le jeu arrive en 94. Alors, il y a des anecdotes. On peut trouver ça sur... Vous allez trouver des vidéos de chez Trick Track, par exemple, où vous avez Croc qui raconte que sa boîte a failli couler parce qu'il a découvert... ils ont tous découvert Magic et ils se sont mis à jouer sur plus de la moitié de leur temps de travail à Magic pendant plusieurs mois. Donc, Croc, c'est l'auteur de Innominé Satanis. Voilà, exactement à l'époque, le jeu cartonnait en France. Et en fait, ça prend très vite, c'est assez viral. Et dans les milieux. Et du coup, ça part des milieux rôlistes.
Je l'avais acheté aussi, hein, Innominé Satanis. Et ça part des milieux rôlistes, oui. Et je pense qu'à l'époque, en termes de marketing, bon, il devait déjà être à la page, hein, je pense. Hein, mais je ne pense pas que ce soit voulu dans ce sens-là. Mais effectivement, il se trouve qu'en 1993-94, avec l'arrivée de Magic, ça a vraiment tué l'élan du jeu de rôle qui était pas naissant, mais qui commençait à se faire une place dans les CDI et dans les salles de lycée, et puis chez les jeunes un peu partout.
Je dirais plutôt qu'il est... En fait, le jeu de rôle était prépondérant, et là, Magic arrive, il devient mineur, en fait, le jeu de rôle.
Ouais, tout à fait. Et par contre, bon, il y a des gens qui n'ont jamais lâché, hein. Le jeu de rôle refleurit un peu plus tard par la suite, mais quand même, ça aurait été un coup dur pour le jeu de rôle, alors que je pense pas du tout que ça a été le but à la base.
Ouais, ça, et Mireille Dumas, je pense qu'on a eu un coup derrière la nuque.
Bah, tu vois, moi, de mon vécu, alors c'est certainement vrai, hein, mais ça s'est pas tellement passé comme ça par rapport aux rôlistes, c'est plutôt que les rôlistes ont continué à faire du jeu de rôle et ont joué à Magic, et par contre, j'ai vu des gens au collège, donc, hein, quand c'est qui t'es pas du tout rôliste, t'es pas du tout de cet univers-là qui se sont mis, eux, à jouer à Magic.
Moi, j'étais en primaire quand c'est arrivé, donc c'était plutôt au collège que j'ai vu ça. C'est des gens qui, dans le club de jeux de rôle du collège, des gens qui, à partir du moment où ils ont découvert Magic, ça faisait un peu la même chose avec Warhammer, d'ailleurs, Warhammer 40 000, bah, on les voyait plus trop aux jeux de rôle, en fait. Ils étaient devant leur boutique à échanger des cartes. Ça, c'était un gros phénomène aussi, on peut parler de ça.
Tu non, mais bien sûr, moi, je parle juste de mon vécu personnel. Ouais. Moi, ça s'est passé comme ça, en fait. Ça s'est passé comme ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure à Balou, ah ouais, enfin moi, je n'étais pas du tout au courant que ça avait tué le jeu de rôle, entre guillemets. Parce que nous, moi, dans mon groupe, on l'a pas vraiment vécu comme ça. Les joueurs de jeu de rôle ont continué à faire du jeu de rôle, plus du Magic. Et ça a ramené des gens, au contraire. Tu vois,
moi j'ai vraiment.
Mais c'est peut-être une minorité. Hein.
Moi je voyais vraiment le côté drogue avec les gens qui. J'avais des copains qui passaient, du coup, qu'on voyait plus parce qu'ils passaient leur temps devant les boutiques, soit à faire des échanges, soit à acheter des decks. Enfin, c'était le truc, tu parlais de drogue.
Et du coup, pour la petite anecdote assez rigolote, c'est moi qui ai mis mon petit frère, donc Xavier, notre président donc, de la Route du Rhum, c'est moi qui l'ai mis au jeu de rôle. Et donc, lui, en fait, je joue au jeu de rôle avec mes potes, et puis, bah, par mimétisme, il a eu envie d'essayer, et puis ça lui plaisait. Et puis, à un moment donné, il m'a demandé, « Ouais, tu veux pas aller m'acheter des cartes Magic, s'il te plaît ?»« Fait, c'est quoi ce truc et tout, machin ?»« Mais s'il te plaît, tu vas jouer club à Rambouillet, tu passes tous les jours devant. » J'ai mis au moins 6 mois avant de lui acheter un paquet de cartes Magic. Et quand je suis arrivé à la maison et que je lui ai donné, et on a fait une partie... Et finalement, moi, j'ai arrêté les jeux de rôle et je me suis mis à Magic. Et lui, du coup, il a joué un petit peu à Magic. Mais ensuite, par contre, il est vraiment retourné sur les jeux de rôle à fond et il a laissé Magic de côté, quoi. Donc, on s'est échangé les passions, quoi.
Et toi, t'avais quel âge, du coup, quand tu tombes dedans ?
Alors, il suffit de faire le calcul. Je suis vraiment... j'ai un problème de... Je ne suis pas dyslexique, mais j'ai un problème avec les années. Et alors, je suis de 79, donc bah, je tombe dedans en 94, 95.
Ce que j'allais dire, on est en 2005. Alexandre.
Je suis au lycée à l'époque. Et en fait, moi, ce qui m'a tout de suite plu, en fait, dans Magic... Et c'est le côté, le côté compétitif. Et si t'es plus malin et si tu prévois mieux que l'autre, et ben tu le bats, en fait, quoi. Il y a un côté tournoi compétitif qui m'a tout de suite plu. Et le côté collection aussi, c'est oh, tu vois, des mecs jouer des cartes, mais l'enfoiré, j'en vois jamais, moi, des comme ça. Bah oui, tu peux plus les avoir. Les boosters, ils sont plus en vente depuis l'année dernière déjà. Et donc, du coup, c'est la guerre après pour aller récupérer les cartes à droite, à gauche, et puis pour pouvoir. Copier le deck du copain. Puis ce qui était génial à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas tout ça, tout le monde ne s'auto-copiait pas, donc chacun avait vraiment sa méthode à lui, et on s'inspirait de ce qu'on voyait, en fait, quoi. Et ça, c'était vraiment chouette. Je pense qu'internet est passé par là, bon, on ne peut pas dire qu'il ait fait beaucoup de mal, mais ça a changé la façon de jouer, ça c'est sûr.
Ouais, c'est le du coup, ça a permis de partager des decks types. Et,
voilà,
bon, c'est du ça. Coup, on peut peut-être parler un petit peu de la... Peut-être parler un petit peu de la mécanique du jeu, juste pour peut-être te lancer. Le deck building, c'est quelque chose qui est plutôt à la mode. On a eu énormément de jeux de deck building et où pas forcément, donc où c'était la mécanique centrale, mais avec des thèmes, avec voilà, qui tournait la chose dans tous les sens. Depuis Dominion, on va dire, mais Magic faisait ça depuis 20 ans, en fait.
Ah bah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Bah c'est le premier jeu de deck building, en fait. Hein. Je pense que.
Comment ça marche ? T'as 5 couleurs, parce que du coup, on achète, je pense, un deck de départ.
Alors en fait, ça se vend à la base de la base. À l'époque, ça se vendait sous deux formes différentes. Soit des boosters de 15 cartes, en fait, où on avait 15 cartes aléatoires et juste un terrain. Ou alors, on pouvait acheter des starters, c'est-à-dire il y avait 60 cartes avec 3 rares. En fait, c'était 3 boosters. Hein. Et par contre, il y avait des terrains de base pour pouvoir faire nos decks, en fait.
Alors, les terrains, c'est ce qui permet, c'est la mana, c'est ce qui permet de lancer, c'est les ressources, en fait, qui permettent de lancer après les sorts et les créatures.
Alors, l'idée, en fait, c'est que, grosso modo, on va équilibrer notre deck de 60 cartes, parce qu'en fait, on n'a pas le droit d'avoir de deck en dessous de 60 cartes. Sinon, au niveau de la variance, ça ne marche pas trop bien, soit c'est trop facile, soit c'est trop dur. Donc, on a 60 cartes, et l'idée, c'est grosso modo, on va avoir une vingtaine de terrains. Donc, on a 5 terrains de chaque type, les plaines, les îles, les marais, les montagnes et les forêts. Et on a le droit à ça, des terrains, d'en jouer qu'un seul par tour. Donc, par exemple, une fois que j'ai posé mon terrain de forêt, je peux l'engager pour prendre un mana vert, vu que la forêt donne du mana vert, qui va me permettre de pouvoir jouer un sort qui coûte juste un mana vert. Mais bon, au début, j'en ai peut-être pas en main. Donc petit à petit, en jouant des terrains, au fur et à mesure, je vais pouvoir accumuler de plus de mana pour pouvoir jouer le plus de sorts, sachant que le but du jeu, c'est de descendre l'adversaire d'en face à 0 point de vie.
Ouais, chaque joueur en fait incarne un sorcier, c'est ça, ou
un magicien.
Un magicien, et a un certain nombre de points de vie. Donc c'est 20 points
exactement.
De vie.
Ouais. Et donc chaque couleur a ses petites spécificités. Si tu veux, Guigui, nous parler des 5 couleurs de Magic. Tu finiras bien sûr par la couleur sacrée, on est d'accord.
Guigui, il jouait elf, non, à tous les coups.
Ah, certainement pas.
Elf noir.
Non, ah, pour Blood Bowl, non. Petit clin d'œil à...
Oui.
Non, pas du tout, non. Donc, les 5 couleurs de Magic, on a donc le blanc, qui représente la pureté, les paladins, la lumière et tout le bordel. On a
Justice.
La justice, exactement.
Mais en gros, c'est des trucs de soins, des trucs de...
Ouais, c'est ça, protection, soins, inquisition, il y a un côté...
Et destruction aussi.
Ange, il y a un beaucoup côté, d'anges. Destruction divine, volante, voilà, ouais. Colère divine, il y a un côté religieux, colère divine, créature volante, des anges, armée, côté biblique, tu vois. Ensuite, nous avons le noir.
Magie de la mort, du machiavélisme, de la corruption, de la souillure.
Ces terrains sont d'ailleurs les marais, tu vois, c'est les morts vivants, la nécromancie,
la cupidité.
Ouais, c'est Nurgle, quoi.
Le noir, il a quelque chose d'auto-suicide, en fait, quoi. C'est, je te fais perdre 5 points de vie. Bon, ok, j'en prends 5 aussi, mais je t'en mets 5 quand même.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, le noir, donc, classique. On a le rouge, dont les terrains qui produisent le mana sont les montagnes, qui représentent la violence et la force brute.
Le chaos,
éclairs,
la passion,
le chaos,
la destruction, l'impétuosité.
C'est des decks très agressifs en général, c'est des cartes agressives.
En rouge, ouais, plutôt. Ouais.
Alors, c'est vraiment le truc de la base de l'époque. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué que ça.
Du coup, il te manque une couleur là, non ?
Non, il en manque deux. Il manque le vert. Le vert qui est donc...
Tu ne vas pas finir par la couleur sacrée, Guigui ?
Je vais finir par la couleur sacrée, Alexandre. Donc le vert, qui est une couleur secondaire, symbolisé par les forêts avec les petits elfes, les petits papillons, dont le...
La magie de la vie.
C'est ça, qui représente vraiment la force de la nature. Au début, le vert, c'est beaucoup de grosses créatures, des tricératops, tu vois, des éléphants, des tyrannosaures. C'est des grosses bêtes, des elfes, des druides, des sources de vie. Et enfin, le bleu, qui est la couleur reine à Magic, n'est-ce pas ?
Donc, selon Wikipédia, c'est la magie de la connaissance, de l'illusion, de l'imaginaire, du rêve, de la raison, de l'ingéniosité et du contrôle.
Et de la fourberie un petit peu quand même.
Ouais, grave.
C'est là où t'as les contresorts et tout ça, c'est ça.
Les contresorts, tu vas pas forcément voir de grosses créatures comme dans la couleur verte qui vont infliger beaucoup de dégâts, mais tu vas par contre tu vas piocher beaucoup de cartes, tu vas avoir des sorts pour contrer les sorts adverses, pour lui faire provoquer des effets tordu en fait, plus que...
Tiens, je te pique
brute.
Ta créature, au fait.
Voilà.
Elle est bien, la créature que t'as invoquée, vas-y, donne-la-moi.
Je te la vole. Tiens, je copie ton artefact, par exemple. Il a l'air sympathique. Tiens, je te renvoie ta créature dans ta main.
C'est donc, plus... La partie... après, on peut mélanger les couleurs.
Bien sûr. Ouais. Alors, bien sûr. Si on parle un petit peu en technique, en fait, chaque alliance de couleurs bicolore a un nom propre, en fait. Par exemple, le noir rouge, c'est Rakdos. Le blanc-bleu, c'est Azorius. Chaque association de couleurs a un nom de guilde qui lui est associé, en fait, et un symbole. Et donc là, il y a des cartes qui sont multicolores, qui peuvent demander... ça va être très compliqué. On ne peut pas expliquer, en fait, comment on joue ce jeu-là.
Globalement, c'est toujours... Toute la base, c'est le deck building. C'est que forcément, si tu vas mettre de couleurs, il va falloir que tu gères autant de terrains ou des terrains multicolores pour pouvoir générer la bonne mana pour que tes cartes, elles fonctionnent.
Après, rajoutons qu'il existe les artefacts, qui est presque une couleur
entière,
qui sont incolores, que tous les decks et toutes les couleurs peuvent utiliser. Qui sont, comme son nom l'indique, des artefacts, des objets magiques neutres qu'on peut invoquer avec n'importe quelle couleur de mana.
Comme l'a dit un très grand drafteur français, mais tout le monde aime les artefacts.
Donc il n'y a pas de lien entre les 5 couleurs, parce que ça correspond aussi aux 5 couleurs des Power Rangers. Aucun lien.
Non.
Eh ben, on peut le dire, Guigui, mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas encore fait la couleur rose. Mais je pense que quand ils feront la couleur rose, ouais, je pense qu'on pourra punir le rattachement évident qu'il y a entre les Power Rangers.
À l'univers. Parce que,
mais ouais. c'est encore assez tabou, tu vois. Guigui n'est pas prêt d'en parler de ça.
Non.
Je pense que ça pourra faire l'occasion d'un autre podcast, je pense, sur l'hétérosexualité, Magic en général et les Power Rangers en particulier.
Oui. N'importe quoi. À la rigueur, je trouve que les couleurs se rattachent presque plus au dieu du chaos, tu vois, dans Warhammer. Tu reconnais bien quand même Tsenge pour le bleu, Korn pour le rouge, etc. Enfin, bref, ça reprend les principes du médiéval fantastique sans grande originalité de ce côté-là.
Je voulais vous proposer une petite pause musicale.
On va
découvrir plusieurs artistes qui ont développé l'univers de Magic dans leur propre couleur musicale. Et on reprend juste après.
Allez.
Feel the magic in the air. Aïe, 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 levez les mains en l'air. Allez, allez, allez. Feel the magic in the air.
Voilà, donc c'était des très belles musiques. Alexandre, bon, tu les as pas écoutées, c'est dans ta playlist, donc j'imagine qu'il n'y avait pas de surprise.
D'accord, je sais plus ce que je t'avais dit. D'ailleurs, it's a kind of magic, ça c'est sûr.
Oui, mais pas la version que tu penses.
Ah, merde, putain.
Donc... peut-être qu'on peut parler, alors, est-ce que vous voulez parler de votre expérience? Est-ce qu'on commence à parler des formats?
Les formats, en fait, tout a commencé. En fait, le premier format logique qui est apparu dans la foulée, c'était le format construit. C'est-à-dire que chacun faisait un deck de 60 cartes en mettant 4 fois maximum la même carte dans son deck. Et à partir de là, bah, il allait affronter n'importe quel adversaire. Alors au début, bah, c'était sur des tables de cantine, dans des troquets, en face de l'œuf cube à Paris. Et puis petit à petit sont arrivés les tournois, et quand les tournois sont arrivés, inutile de vous dire que là, il fallait vraiment avoir les bonnes cartes pour gagner, et puis bah, les bonnes cartes, les plus puissantes, bah, c'est comme ça qu'elles ont commencé à s'envoler. Je me souviens, quand on était au lycée, on disait qu'un Black Lotus, ça coûtait 1000 francs, c'est-à-dire 150 euros.
Ouais, c'est ça.
Je peux dire que j'aurais dû en acheter 200 à l'époque.
Maintenant, c'est combien un Black Lotus ?
Ça sert à rien de le dire. Franchement, je pense que ça dépend de l'état, ça dépend de l'édition.
En moyenne.
C'est plutôt dans les 50 000 euros. Ouais.
Oh, 50 000 balles.
Attends, je vais dire ça tout de suite. Regarde, hop là, Card Market. Hop, connexion. Hop, Black Lotus. Alors, Black Lotus, quelle édition ?
Bah, justement.
On va dire.
La moins chère, le Black Lotus, moins cher que tu trouves, jouable.
Eh ben, c'est Unlimited, c'est 10 000 euros.
Ah, bah c'est... Voilà, alors, c'est déjà pas mal.
Alors, cette rareté, parce que du coup, chaque année, tu as des nouveaux sets qui arrivent. Alors, je crois qu'il y a des générations de sets, des blocs de 3 années. Et donc, après, il y a des cartes qui sont plus commercialisées.
Exactement, il y a des cartes qui sont plus commercialisées. Il y en a qui le ressont, attention. Donc, c'est rééditions. Toujours très difficile. En fait, bien malin est celui qui va pouvoir dire quelle carte sera rééditée et quelle carte ne le sera pas, en fait, quoi. Parce qu'une carte qui va être rééditée, elle va pas s'envoler et exploser en cote, en fait. C'est celles qui ne vont pas être rééditées, en fait, qui vont être compliquées à trouver.
Sauf pour les plus anciennes, où ils se sont engagés à jamais les rééditer, je crois.
Oui, ils ont fait une réserve liste de cartes qu'ils ont dit qu'ils ne rééditeraient jamais.
Donc, c'est question quand même, qui s'envole. T'as des nouvelles cartes tous les ans, depuis plus de 25 ans. Comment tu gardes un jeu équilibré en sortant autant de cartes ?
Eh ben, franchement, je sais pas comment ils se débrouillent. Mais en fait, il y a 3 sets par an. Un cycle de un bloc, c'est 3 sets, c'est 3 éditions, d'accord ? Et tous les 2 ans, pour le standard, l'édition se renouvelle et change. C'est-à-dire qu'une carte ne reste dans le standard que pendant 2 ans. Ensuite, la troisième année, elle disparaît, ça laisse place aux autres, etc. Mais ça, on parle du format type 2, en fait, quoi. Parce qu'il y a plusieurs formats. Donc, il y a le format, en fait, le format vintage, c'est le format où on peut utiliser toutes les cartes qui existent, mais il y a un certain nombre de cartes qui sont limitées en un seul exemplaire. Bah, comme par exemple Black Lotus, limité en un seul exemplaire. On a le Legacy, où toutes les cartes sont autorisées, mais il y a une liste de cartes qui est carrément bannie. Alors, ça, c'était mon format de prédilection dans lequel j'ai fait, je ne sais pas, peut-être 300 tournois faciles. Ensuite, il y a des formats, plus ça avance en fait, et plus les formats sont avec des cartes récentes, et on n'est pas obligé d'aller aussi loin pour trouver. Mais alors, comment ils se sont renouvelés, franchement, c'est un savant secret, je ne sais pas comment ils se débrouillent,
mais c'est toujours super bien foutu. Ce n'est pas tellement le renouvellement, c'est l'équilibre. Je pense que c'est l'équilibre, ils arrivent à le garder parce qu'il y a plusieurs formats.
Ouais, aussi,
si tu joues en standard, tu joues avec que telle et telle édition.
Ouais.
Et stop, c'est fini. T'as pas accès au pool de cartes monstrueux de Too Magic, tu vois.
Bah oui, non, parce qu'en forcément... gros, le format normal, c'est des joueurs plutôt occasionnels qui vont avoir suivi une ou deux saisons, et puis voilà, en général. Donc c'est une certaine cohérence qui est gardée, non ?
Ouais, tout à fait, ouais. Et puis il y a un univers surtout. C'est, tout est dans le même univers, tout est dans la même cohérence, et en fait, sur 2 ans, eh ben, y a 2 univers qui se confrontent. Par exemple, là, il y a la nouvelle extension Innistrad qui vient de sortir. C'est une extension qui est un petit peu en mode un peu maison hantée, comment dire. Il y a des vampires, des loups-garous et des humains qui se battent contre les 2 autres, qui se battent tous entre eux. En fait, c'est Poule Renard Vipère, en fait, quoi. Ils ont fait vraiment une extension assez rigolote là-dessus. Et qui cohabite avec l'extension d'avant, qui est, je sais plus c'est quoi, mais c'est pareil, c'est dans un autre univers encore, quoi. Ah si, c'est Donjons Dragons. L'extension, le bloc d'avant, c'est Donjons et Dragons. Parce que c'est les 20 ans de Donjons et Dragons, je crois, depuis qu'ils ont été repris par... parce que c'est la même société qui fait Magic et Donjons Dragons, en fait. Et comme ça fait un certain nombre d'années, puis je sais plus si c'est pas les 30e anniversaire ou un truc comme ça, ils ont sorti une extension de Magic sur Donjons et Dragons, qui est assez rigolote d'ailleurs à jouer.
Et en fait, tu dois quand même avoir des cartes qui sont complètement désuètes et personne ne les utilise.
Bien sûr, bah, la plupart des cartes, en fait. Hein. La
et au contraire, des tu dois avoir des cartes, tu parlais du Lotus Noir, mais tu as des cartes qui sont quand même qui sont essentielles aussi si tu veux gagner un tournoi, non ?
Oui, mais en fin de compte, Magic, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un sport où un amateur peut battre un professionnel sur une partie. Bien sûr, s'ils vont faire 10 parties ensemble, eh ben, le pro il va en gagner 9. Mais c'est un sport où tu peux ne pas avoir de chance. Et bon, soit dit en passant, c'est tout le temps les mêmes qu'on retrouve sur des tables de top 8 avec 2500 joueurs. Hein. Donc la chance est une partie, mais assez minime. Mais tu peux battre le champion du monde. Si la chance est avec toi, rien ne peut t'arrêter, en fait.
Ouais, parce que tu disais le deck de 60 cartes, tu parlais d'avoir 20 terrains dedans. Si tes terrains, ils n'arrivent pas, c'est quand même la lose. Hein.
Et ben voilà, bon après il y a tout un système de mulligan qui a été mis en place, c'est-à-dire que si ma main ne me plaît pas, quelle que soit la raison, je peux décider de la remélanger à mon deck et d'en repiocher 7 nouvelles. Par contre, ce coup-ci, j'en prendrai une que je mettrai en dessous. Si elle ne me plaît toujours pas, je peux remélanger. Il ne faut pas hésiter à mulligan. Souvent, en fait, c'est une des premières choses à savoir bien faire quand on fait du compétitif, c'est à savoir quand est-ce qu'il faut mulligan et quand est-ce qu'il ne faut pas mulligan.
C'est quoi ? C'est qu'il faut un minimum de terrain ? Il faut des cartes pour démarrer
Ça oui, dépend complètement de la stratégie de ton deck. Il y a des decks qui n'utilisent pas de terrain, par exemple. Donc là, tu es sûr que tu ne vas pas pouvoir en piocher. Quoi. Non, et puis surtout, en fonction de qui est-ce que tu as en face de toi et de ce que cette personne joue. Par exemple, si cette personne joue un truc complètement terrifiant qui part tour 1 et qui gagne tour 1, et que toi, dans ta main, tu as juste une île et puis ton spell pierce, ce qui va pouvoir contrecarrer le sort d'en face, ça te suffit. T'as pas besoin de plus. Le mec, il crame sa main, il part en combo, tu l'arrêtes. Terminé. Après, t'as le temps de gagner. Et puis, il y a d'autres fois, au contraire, il va falloir vraiment trouver de quoi agresser ou contrôler. Tout dépend du match-up, en fait, quoi. En fait, c'est-à-dire qu'il faut connaître bien son deck, il faut connaître le deck de son adversaire pour faire du compétitif et gagner. Parce qu'il y a aussi énormément de joueurs qui vont pour boire des pintes de bière, s'amuser, retrouver les copains dans un environnement fun pour eux, quoi. Ils sont pas là pour gagner, quoi.
Tu peux acheter des starter decks, hein, ils font des kits d'initiation vraiment pas cher et tu t'amuses, hein. T'as pas le deck building, mais donc juste derrière, tu vas être un peu frustré parce qu'il va te manquer ça et ça, parce que tu sens bien qu'en ajoutant tels ingrédients, ton truc il peut être boosté, et c'est comme ça que t'es parti après, quoi.
Ouais, bah justement, moi, Magic, tu vois, c'est là où j'ai appris à jouer vraiment en compétitif, parce que j'ai commencé comme tout le monde à y aller en essayant de gagner, mais bon, tu sors, tu vois, ah, là j'ai pas eu de chance parce qu'il m'est arrivé si, ah bah là ce coup-ci j'ai pas pioché, ou j'ai eu que des terrains, ou... et j'ai rencontré j'ai joué pendant assez longtemps avec tout le gratin parisien, vraiment les très gros joueurs. On fait des grosses performances, qui jouent très 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 bien. C'est eux qui m'ont appris, qui m'ont fait comprendre que maintenant, mais il n'y a pas de baba des chattes, j'ai pas eu. Non, si tu perds, c'est qu'il y a une raison, en fait. Si tu finis pas premier ou deuxième, c'est qu'il y a une raison. C'est que soit tu maîtrises pas, soit ta liste elle est pas bonne, soit tu es dans l'affect, tu joues des cartes que t'aimes alors qu'elles sont dépassées. Il y a toujours quelque chose, en fait, quoi. Donc c'est ce côté compétitif, ouais, vraiment qui m'a plu en premier lieu.
C'est ça, on pourrait croire qu'il y a de la chance, dans le sens où on pioche des cartes, donc c'est au hasard. Donc si on perd, c'est la malchance. Mais comme a dit Balou tout à l'heure, c'est toujours les mêmes noms qu'on a en tête des tournois. C'est exactement la réflexion que j'avais eue pour Blood Bowl, entre parenthèses. Tu vois, on lance des dés, c'est un jeu basé sur la chance. Tu regardes les tournois, c'est tout le temps les mêmes gars. Donc il y a autre chose derrière.
Ouais, mais quand t'as de la chance comme ça sur des jeux, parce que tu parles de Blood Bowl, c'est des jeux où il faut contrôler la part de chance, en fait.
C'est ça.
Exactement.
Tu peux avoir une malchance sur une partie, en fait. Effectivement. Ouais. Mais sur 10 parties, tu peux pas tout mettre sur le dos de la chance. J'ai pas eu de chance sur 10 parties, non, c'est bon.
On peut mentir 1000 fois à une
personne.
Ouais, c'est bon.
On peut pas.
Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi.
On a compris, quoi.
Je vais vous remettre un petit jingle, un petit montage. Alors, ça va plutôt être... C'est la communauté Magic qui existe depuis un certain temps, et une communauté française avec des youtubeurs qui font des parodies. Je vais vous mettre un petit florilège de ça, et puis on se retrouve après.
Ok.
Ce petit paquet de 15 cartes révolutionnera le monde ludique et continue encore de fonctionner tant et plus. Magic the Gathering, je le découvre en 1994 avec la première version française.
Simic Flash, 8-12-12, les contresorts les plus chauds de la région.
Il y a ces créatures qui se font passer pour des dieux, hein.
Oui, mais pas toutes.
Ah, on met un Nexus de masque bois, elles sont toutes des dieux.
Non, mais ça, vous dites.
Et puis elles reviennent avec... Mais on ne peut pas accueillir toute la misère de l'arbre monde. Mais vous êtes une hystérique, bon sang. Taisez-vous.
Magic Arena, maintenant disponible sur tes toilettes.
Avec des decks que moi-même j'avais construits. Mais c'est vrai que je tombais que contre des decks tier 1, mono rouge, white control. Alors là, j'ai arrêté, quoi. J'ai désespéré. Je voulais plus jouer, quoi. Parce que, à quoi bon?
Ok.
Petit moment sympa.
tu veux qu'on parle des petits formats qui nous ont amené justement à créer un Wadjik?
Oui, voilà. Et puis, de votre parcours, parce que là, tu dis que tu as fait de la compétition. Donc, tu as commencé de joueur un peu occasionnel. Tu as acheté plein de cartes. Tu t'es retrouvé aussi devant les boutiques à en acheter et à échanger.
J'en ai surtout gagné beaucoup, en fait. Parce que à l'époque, j'ai créé un deck pendant toute ma période, l'âge d'or, en fait, quoi, mes faits d'armes. C'était un deck que j'ai appelé Full English Breakfast parce qu'il était complètement indigeste. Et personne connaissait ce truc-là. Et en fait, je jouais vraiment à contre-courant. C'est-à-dire que quand on connaît super bien le format, eh ben, il y a deux grosses façons de gagner. La première, jouer le deck du moment que tout le monde joue, mais le jouer mieux que les autres et tous les défoncer. Ou alors, arriver avec un truc de l'espace que personne connaît, qu'à chaque carte que tu vas jouer, ça va être la surprise et où ça va être un enfer, quoi. Et donc, pour ceux qui jouent à Magic, je jouais la fameuse combo avec le change-forme de Volrage et Phage l'intouchable. Donc j'attaquais en une phase d'attaque, en fait, le joueur perdait la partie. Et c'était l'horreur absolue, ce deck, quoi. Jusqu'à ce que Survie du plus apte soit banni. Et que mon deck, du coup, j'ai dû changer après.
Donc tu as quand même des cartes qui ont été bannies du jeu.
Bien sûr, tout le temps, en fait, en permanence. C'est-à-dire que tous les 3 mois, il y a une liste de cartes qui sont bannies. Et des fois, ils débannissent des cartes. Je peux vous dire que là, il faut être rapide hein, pour aller sur Card Market et vite acheter les cartes qui sont débannies avant qu'elles explosent en prix. Parce que c'est que des vieux trucs. Souvent, quand ils ont débanni Black Vice, par exemple, bah, il est passé de 1 euro à 30 euros. Quoi.
Mais t'as pas des délits d'initié ? Genre le mec qui est chez Wizards of the Coast, qui... ok, on va débannir cette carte, j'en achète un stock de 150.
Oui, certainement. Si, bah, ceux qui, a priori, pourquoi pas. Hein, mais je pense pas que ce soit trop là. Certainement, ça va être possible. Mais même sans ça, il n'y a pas besoin de faire de délits d'initié pour gagner de l'argent en Magic. Hein, comme je te disais là, hein, tu achètes le double terrain, tu peux en avoir à 200, 300 balles, tu les achètes. L'année prochaine, tu les revends à 300 ou 400 balles. Puis dans 2 ans, tu les revends à 500, 600. Puis dans 10 ans, tu les revends plus de 1000 euros. Enfin. Ça, c'est un super placement, c'est carrément une niche fiscale à lui tout seul.
Ouais, c'est étonnant parce que c'est un marché qui a l'air assez sûr et stable dans le temps.
Ah bah, il n'y a pas plus stable que ça, même le pinard, j'ai un pote, il fait du pinard, Greg, mon ami là, il achète du pinard, puis après il voulait en revendre, mais en fin de compte il boit tout lui, au final il s'en fout. Mais là, il va acheter des cartes magiques. Là. Il me dit, bon, dis-moi lesquelles j'achète, je les achète. Il est sûr de les revendre. C'est certain, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas à discuter là-dessus. C'est sûr et certain que ça ne peut pas se casser la gueule. Dans le pire du pire, au pire, il ne fera pas de gain. Mais j'y crois même pas. Quoi.
Bon, je ne vois pas comment. Et du coup, tu vas lui faire acheter quoi, entre parenthèses?
Bah, des bilans.
Des gros bilans, ouais.
Ouais. Bah ouais. Franchement, c'est ce qu'il y a de plus...
Valeur sûre, ouais.
Exactement. Même si pour moi, là, le truc qui est under the radar et qu'il faudrait acheter, bah, je n'ai pas les thunes, mais bon, c'est toutes les cartes qui sont presque jouables et qui sont en bêta. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui font des cubes comme nous, des Wadjik, et qui ont besoin de certaines cartes en un exemplaire. Et en fait, quand on fait un cube ou un Wadjik, l'idée, c'est d'avoir... dans la version la plus belle possible, et puis bah, la version la plus belle possible, bah, c'est la plus vieille à Magic.
Tu parles du cube et du Wadjik, du coup, c'est peut-être le bon moment d'en parler.
Alors voilà, bon, alors pour la petite histoire, il y a tout un... Bon, il y a le format donc, limité à Magic. Format limité, c'est par exemple, on va dans une boutique, on fait un draft, donc ça, tout le monde sait ce que c'est un draft, hein. On a des cartes, on se les passe de main en main pour faire notre propre deck. Donc ça, c'est un format limité, parce qu'il y a un certain nombre limité de cartes qui sont là, et elles ne peuvent pas arriver de l'espace, quoi. Si elles n'ont pas été draftées, elles ne seront pas jouées dans la soirée, quoi. Et on a le format construit, donc ça, c'est un format où on arrive soi-même avec son deck. Et puis, il y a tout un système d'arbitrage qui s'est mis en place pour les tournois. Je suis arbitre d'ailleurs niveau 1. Les plupart des formats alternatifs ont été créés par des arbitres, et d'ailleurs bien souvent des arbitres français, comme par exemple le Highlander, qui est l'ancêtre du comment ils appellent ça maintenant, le Commander, ça s'appelle maintenant. Donc un deck en singleton, c'est-à-dire une seule fois chaque carte de 100 cartes. Donc là, ça fait une énorme variance en fait, quoi. Et on est plutôt dans un format fun pour s'amuser. Et on a un commandant, par exemple, si notre commandant il est bleu, bah, toutes les cartes de notre deck elles peuvent être que bleues. Si notre commandant il est bleu et noir, oh, on peut jouer des cartes bleues et noires, mais pas les autres. Ok, jusque-là. Et donc ça, c'est un des premiers formats fun qui a été créé. Et il y a, alors, je crois que c'est un joueur français, je ne sais plus qui c'est exactement, qui a fait le premier Wadjik. Donc en fait, c'est comme Magic, mais avec le W à la place. C'est parce qu'à la base, c'était un gros paquet de cartes qui était en singleton. Alors, ça pouvait aller de 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 cartes. En fait, c'était un peu un fourre-tout. Les mecs, plutôt que d'avoir des classeurs, ils disaient, tiens, ça, ce serait bien dans mon Wadjik. Allez, hop, ils mettaient un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, c'était déséquilibré, il y en avait dans tous les sens. Souvent, c'était souvent des gros tons, des gros dragons dans tous les sens. Et l'idée, c'était qu'il n'y avait pas de terrain. Donc chacun piochait sur la même pioche, donc en format fun. Souvent les arbitres jouaient à ça pendant les gros tournois quand il n'y avait pas de joueurs pour poser des questions, pour passer le temps en fait. Et donc, si par exemple, j'ai une carte bleue dans ma main, je peux choisir de soit la jouer si j'ai de quoi la jouer, mais comme il n'y a pas de terrain, sinon je peux la jouer à l'envers. Et donc, en la jouant à l'envers, ça sera considéré comme une source de mana bleue. Et si j'ai une carte tricolore, bleu-blanc-rouge par exemple, si je la joue à l'envers, elle pourra me donner soit un blanc, soit un rouge, soit un bleu. Vous voyez jusque-là ? Donc on pioche et on joue les cartes au fur et à mesure, en piochant tous dans le même paquet. Et c'est un format qui était plutôt marrant. Alors, mon Wajik à la base, que j'ai fait en 2005, c'était ça en fait. On a commencé à jouer comme ça. Et c'était assez rigolo, mais bon, pas forcément très compétitif, parce que celui qui pioche des gros trucs... on ne peut pas dire que ce soit vraiment le joueur le plus talentueux qui gagnait. Quoi.
Donc c'est une grosse collection de cartes dans lequel les joueurs vont piocher.
Exactement. À la base, c'était ça. Ensuite, ça a évolué parce que plein de joueurs se sont mis à faire des Wajik et les joueurs parisiens avec qui jouaient, leur Wajik, c'est vite devenu ce qu'on appelle maintenant un cube. Alors, on a dit Wajik encore pendant longtemps, même si on ne jouait plus du tout avec les règles du Wajik et les cartes inversées, mais on appelait ça quand même un Wajik pendant très longtemps. Donc, en fait, c'est une liste de cartes qui peuvent être draftées, du coup. Donc, l'idée, en fait, c'est de faire comme si c'était des boosters. Donc, on mélange tout et on fait des boosters aléatoires à chaque personne et on les draft en circulant autour des joueurs. Et l'idée, c'est d'arriver à vraiment avoir un certain nombre de cartes,
cohérentes.
De vraiment, vraiment les cartes qui sont les vraiment rares et vraiment belles et vraiment fortes, en fait, quoi.
Ouais, mais du coup, dans ta liste, tu vas gérer quand même un quota de créatures, de sorts.
Exactement, exactement. Bah, d'ailleurs, quand je posterai pour le tournoi de la Route du Rhum, je mettrai en lien la liste de mon Wajik, qui fait 960 cartes. Il y a 120 cartes de chaque couleur. Il y a 120 artefacts, 120 cartes multicolores et 120 terrains non-base. Donc 960 en tout. Chose intéressante à savoir, dans chaque couleur, il y a 60 créatures et 60 cartes non-créatures. Ce qui fait qu'en fait, on a un équilibre déjà d'office entre tout, quoi. Et la chose aussi...
Sauf qu'on va les tirer au sort... Et qu'on va, alors le truc qui contrecarre le tirage au sort, c'est qu'on va les drafter, donc on va faire tourner les paquets. Donc chacun va prendre les cartes qui vont l'intéresser sur la couleur qu'il a choisie.
Alors pas tout à fait, pas tout à fait, parce que j'ai une règle spéciale dans mon Wajik et d'ailleurs dans mon cube, comme vous voulez, cube Wajik. Et d'ailleurs beaucoup de gros joueurs parisiens aussi ont fait la même chose. C'est-à-dire que ce que je vais faire moi pour faire les boosters, je vais prendre par nombre de joueurs en fait. Essayez de bien suivre parce que c'est pas super évident à comprendre quand on n'a pas l'habitude. Je vais prendre 6 cartes de chaque couleur, d'accord ? Donc au hasard, donc 6 bleus, 6 verts, 6 rouges, etc. 6 cartes multicolores, 8 cartes d'artefacts, 8 cartes de terrain, ok ? Donc chaque joueur va se retrouver avec 52 cartes, je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça, 52 cartes. Et donc il va prendre ce paquet, il va les mélanger complètement. Donc, dans son paquet, il aura autant de cartes bleues ou rouges que tous les autres dans leur gros paquet. Jusque-là, tu suis ?
Oui.
Et donc, une fois que c'est mélangé,
juste vite fait,
il va refaire de façon...
Pour que ce soit clair, quand tu dis terrain, il y a des terrains spéciaux. Parce qu'avant,
oui, c'est des terrains spéciaux.
Voilà. C'est des terrains en plus des terrains...
Ouais, c'est des terrains spéciaux. Hein.
Voilà.
Et donc, l'idée, c'est que de ces 52 cartes, tu vas tout mélanger et tu vas faire 4 tas. Ok ? Et ces 4 tas, en fait, ce sera tes 4 boosters pour le draft. Donc, tu vas ouvrir autant de cartes bleues que tous les autres. Mais peut-être que tu n'en auras pas dans le premier booster, par exemple.
Ouais.
Ok ? Et donc, du coup, quand on va drafter, eh ben, tu sais que, par exemple, que si tu décides de drafter rouge, il va y avoir des cartes rouges qui vont circuler, en fait. Autant que des cartes bleues, autant que des cartes noires. Et donc, du coup, c'est viable. Que quand tu draftes en faisant purement aléatoire, il se peut que tu commences par prendre du bleu, puis qu'en fait, ouais. Bah après, il n'y en ait plus, en fait, quoi.
Et puis c'est pareil, bicolore, y a le risque aussi de ce que font les autres, il faut être attentif, j'imagine, à ce que sont en train de drafter les autres joueurs.
Alors moi, j'ai toujours trouvé ça très compliqué de savoir ce que draftaient les autres joueurs, justement avec cette méthode-là.
Ouais, mais si vous êtes plusieurs à faire bleu, vous allez le sentir, non ?
Ah bah oui, ça se sent. En fait, tu le vois parce qu'il te revient, en fait, les couleurs qui ne sont pas trop draftées. Mais c'est très difficile à deviner qui à gauche drafte quoi. C'est assez compliqué à s'en rendre compte en fait de ça quoi, je trouve. Donc, l'idée, c'est que donc, mon cube, c'est les 960. L'idée, il faut que ce soit les 960 meilleures cartes de Magic et les plus belles, en fait, quoi. C'est-à-dire que si j'ai... j'ai une bêtise, si j'ai un Jace The Mind Sculptor, bah, il est foil, en fait. Il faut que tout soit le plus beau et le plus rare possible, en fait, quoi. Et donc, c'est un boulot de chaque semaine, hein. Encore aujourd'hui, j'ai reçu des cartes, j'en revends, j'en rachète, pour tout le temps avoir la liste parfaite, et notamment à jour des dernières extensions, en fait, quoi.
Alors, pour autant, Alexandre, le tournoi, c'est un peu compliqué de dire, hein, je voudrais découvrir Magic, je vais jouer à la Route du Rhum à ce tournoi. Magic, c'est quand même un jeu qui a une courbe d'apprentissage et qui, c'est quand même très compliqué de rentrer dedans à bon niveau au départ. Principalement, il y a beaucoup de cartes, etc., qui sont toutes basées sur des mots-clés. Et le temps de passer sur tous les mots-clés, comprendre les mécaniques et tout ça, ça prend vraiment du temps, quoi. La courbe d'apprentissage, elle est assez longue, en fait.
Effectivement, c'est même impossible, en fait, d'apprendre à jouer à Magic à la Route du Rhum. Il faut avoir appris en amont. Par contre, ce qui est cool, c'est que pour les joueurs qui sont débutants, mais qui ne sont pas, confirmés, eh ben, je me suis débrouillé déjà pour que il doit y avoir 95% des cartes du Wadji qui sont en français.
Je m'engage.
Moi, président de la République, toutes les cartes de mon Wadji seront en français.
Oui, ça n'engage que ceux qui... Oui.
Qui veulent bien croire en mes promesses.
Qui y croient, quoi.
Ah là 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 là. Voilà, quoi. Alors, l'idée, ouais, c'est d'avoir des cartes. En fait, maintenant, par exemple, quand je rentre une carte dans le Wadjik, et ça fait déjà longtemps que c'est comme ça, hein, ça fait déjà 10 ans que je fais ça, quand je rentre une carte, par exemple, si je rentre une créature rouge, bah, ça veut dire que je sors une créature rouge, en fait. Tu vois ce que je veux dire?
Du même coup
et
de
même,
mana.
Ça va même plus loin. Ça va même plus loin. Si je sors une créature à un coup de mana rouge, à un mana rouge, eh ben, ça va être pour rentrer une créature à un mana rouge, pour avoir une curve complètement équilibrée et pour pouvoir faire des decks en fait les plus pétés possibles, en fait, quoi. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à avoir des trucs complètement indécents, de decks de psychopathes, de retournement de situation à chaque tour, en fait, quoi. Parce que ça fait des decks complètement fous. La puissance des cartes est telle que même en ayant drafté un truc complètement taré, tu peux perdre sur un mec qui fait « Ah ouais, ok, d'accord, t'as tout sorti, bah balance, allez hop, on dégage tout, on recommence. »
Mais du coup, c'est, enfin, moi j'ai fait 20 parties dans ma vie, à ton avis, je peux aller jouer au Magic au cube avec vous?
Je sais pas, est-ce que tu as essayé de jouer à Magic Arena?
Oui, j'ai fait le tutoriel.
Ben, si t'arrives à jouer à Magic Arena, que tu comprends grosso modo ce qui se passe, les interactions des cartes, et surtout, là, en fait, ce qui est compliqué au début, c'est cette notion de priorité. C'est-à-dire cette notion de joueur actif. Quand t'es joueur actif, tu peux jouer un sort, mais si tu ne joues rien et que tu es joueur actif, l'autre ne peut pas jouer. Il est obligé d'attendre que tu joues quelque chose pour pouvoir répondre. Et quand c'est l'autre, le joueur actif, et ben, ça devient ton tour d'être obligé d'attendre. Ou l'attendre la fin de chaque phase. Mais bon, c'est des détails, en fait. Ça, c'est juste la façon de jouer. C'est assez rapide à apprendre ça.
Ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, des combos qui vont se lancer et il y a des contresorts de l'autre côté. Et la chronologie des cartes est super importante. C'est un des trucs qu'il faut apprendre, en fait.
Ouais, c'est un des trucs qu'il faut apprendre. C'est pour ça que, comme je te dis, hein, je conseille vraiment fortement pour ceux qui ont envie de découvrir le jeu Magic Arena.
Alors, Magic Arena, c'est gratuit, c'est disponible sur PC, quasiment toutes les plateformes PC, Android, ouais. iPhone, machin. Tu peux y jouer aux toilettes.
Exactement, on peut y jouer en faisant caca. Et d'ailleurs, j'ai cherché une anecdote. Une anecdote de merde, donc. Non, ouais, c'est vrai que pour le coup, c'est assez addictif. Et quand on commence à bien comprendre ce qui se passe dans ce jeu-là, on peut jouer au Wadjik, quoi. Ça, c'est sûr, quoi. Après, oui, il faut déjà savoir jouer. Et il y a un petit côté quand même compétitif et geek qui plaît pas forcément à tout le monde. Hein. Tout le monde n'est pas fait pour jouer à Magic. Il y a des gens.
Bon, si t'aimes les jeux de combo et les jeux de deck building. Ouais. Tu risques d'aimer, quoi.
Voilà. Ah, il y a des chances quand même. Il y a des chances. Et ce qui est cool avec le Wadjik aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir de cartes parce que elles sont toutes là. J'ai le cube.
Il a hypothéqué sa maison pour vous.
Je pourrais en racheter une bonne partie avec. Hein.
Oui, ça m'étonne pas. Ouais, t'as dit près de 1000 cartes, ouais.
C'est assez flippant. Mais attends, je vais te dire, si je regarde sur Magic, parce que le truc, le site Cube Cobra te dit en fait combien ça coûte. Bah, là, par exemple, le cube, mon cube, avec toutes les cartes qu'il y a dedans, il y en a pour 57 796 euros. C'est pas une blague. Hein.
En donc fait, maintenant, l'adresse d'Alexandre, c'est Nogent-le-Roi. Non,
j'exagère. C'est parce qu'en fait, dedans, tout le P9, donc les 9 cartes les plus puissantes et les bilans, sont en proxy. C'est-à-dire que ce sont des fausses cartes, très bien faites, mais c'est des fausses. Alors, je les ai à la maison, tous les bilans, mais je ne les mets pas dedans parce que c'est manipulé et tout. Et puis, c'est tellement d'argent que je me dis, bon, sait-on jamais, hein, si un mec que je ne connais pas qui veut partir avec ma mère souterraine, je vais faire la gueule, quoi.
Et du coup, tu parlais de Magic Arena qui est vraiment très bien fait et qui a quand même utilisé, je pense, pas mal de trucs d'interface qui ont été développés par Hearthstone, donc le jeu de Blizzard, qui est exclusivement un jeu vidéo. Est-ce qu'on peut parler peut-être des concurrents et des choses qu'on bénéficié à Magic
Alors, pour le coup, je crois que le moteur graphique n'a pas été développé par Hearthstone. Blizzard qui a acheté le moteur graphique à une boîte, mais le moteur graphique sert à faire d'autres choses, en fait. Ils utilisent le même, en fait. Et l'intérêt, en fait, de ce moteur graphique, à ce que j'en ai compris, c'est pas tant le moteur graphique, c'est surtout le moteur tout court, en fait. C'est-à-dire qu'on ne joue pas avec les règles du jeu sur notre PC. On stream, en fait. On joue en streaming sur un ordinateur qui calcule tout et qui fait tout à distance, de façon à rendre la triche impossible. Je ne sais pas si tu me suis.
Ouais, mais en tout cas, au niveau interface, la façon d'expliquer les cartes, la façon de ranger les cartes, les indicateurs, même le plateau de jeu qui est légèrement interactif, tu veux cliquer dessus, ça fait toc-toc-toc, tu vois. Enfin, tous les trucs qui viennent d'Hearthstone, en fait.
Magic Arena a été créé pour concurrencer Hearthstone, avec beaucoup de retard, parce qu'ils auraient dû le faire bien avant. Et ça a plutôt bien marché.
Magic en jeu de cartes physiques, il est tout seul. Enfin, il y a eu des concurrents qui ont tenté des trucs. Plein. Voilà. Il y a eu. Tu parlais de World of Warcraft en off avant, qui a tenté. Enfin, je pense que chaque univers, chaque truc, ils ont vu le.
Mais
le,
je crois que Hearthstone sait World of Warcraft. Hein. Hearthstone sait le jeu World of Warcraft. Hein. C'est le même. Hein.
Bah, c'est le même univers parce que c'est Blizzard, donc c'est leur univers Warcraft. Ouais. Ouais.
Non, mais je crois que c'est le même jeu. C'est le même jeu en fait. Tu peux jouer avec les. Enfin. C'est ce qu'on m'avait dit. Après, je suis pas un expert.
Non,
mais
en fait, toutes les créatures, tous les, parce qu'il y a des aventures, etc. dans Hearthstone, c'est l'univers World of Warcraft. Donc, tu vas retrouver les mêmes héros, tu vas retrouver les mêmes créatures. Voilà, c'est le même lore en fait, qui date des jeux de stratégie. Hein. On est vieux. Hein. Warcraft 1, 2, 3 et du coup, qui a été développé après par World of Warcraft. Mais Hearthstone, c'est dans l'univers de Warcraft clairement. Tu vas retrouver les mêmes chefs de guerre, les mêmes...
Mais tu sais qu'il y a un jeu, World of Warcraft, en carte à collectionner, qui est sorti aussi.
Oui, c'est de ça dont je parlais. Donc, ils ont essayé aussi de sortir la version carte physique, quoi.
Mais c'est le même, enfin, ce que j'avais compris.
Ah oui, même mécanique, même...
Ouais, okay, c'est même les mêmes cartes, en fait. C'est la suite. Après, maintenant, ça sort que en virtuel, parce qu'ils ont arrêté les sorties physiques de leur jeu.
Après, t'as eu Yu-Gi-Oh! Et Pokémon plutôt dans la veine jeunesse, mais j'ai l'impression que c'est plus des jeux à collectionner. Yu-Gi-Oh! Peut-être est plus joué que Pokémon. Pokémon, je vois beaucoup de gens, d'enfants, les collectionner, mais pas forcément y jouer.
Ah, quand mes gosses m'ont dit qu'ils voulaient des cartes Pokémon, je me suis dit, attends, je vais leur acheter des cartes Pokémon, mais je vais essayer de me renseigner ou de savoir comment on joue pour leur dire, voilà. C'est fait pour jouer, en fait, donc jouer avec. Puis je m'étais perdu en cours de chemin, et du coup, j'ai jamais appris à jouer. Mais ma fille même de 19 ans, hein, elle adore, elle en a plein, elle a ses classeurs et tout. Dès quand elle fait des brocantes, elle en achète.
Bah, ça tourne bien, hein. C'est aussi le système de mana et tout, hein, parce que tu as les Pokémon avec des types, c'est la même chose que les terrains, en fait.
Ouais, c'est multitypé,
t'as beaucoup de choses en commun. Et le truc collection avec les cartes collector aussi, les cartes rares.
Ouais, ça c'est. Bah, maintenant, Wizard, ils ont compris. Hein, s'ils ont compris qu'il y a des bouts de carton, c'est pour te dire, un arbitre sur une journée de tournoi de folie, moi je l'ai déjà fait deux fois, c'est un cauchemar. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu es là avant tous les joueurs, tu restes toute la journée, tu passes ta journée à piétiner avec ton pantalon noir et tes chaussures là, et à la fin, en fait, ils te filent une boîte de booster Donc, bah, c'est l'équivalent de 100 balles, quoi. 100 balles. Et en plus, il te file 4 cartes collector, foil, c'est ce qu'on appelle des judge gifts, en fait. Mmh. Mais en fait, les judge gifts, ça coûte un pognon de taré. À l'époque, j'avais eu deux survies du plus apte, foil d'essai, machin. J'en ai gardé une pour mon cube, l'autre, je l'avais échangée. Si je ne l'avais pas échangée, je pourrais la revendre 1000 euros, là. Donc, en fait, ils payent les mecs avec des bouts de carton. Et en fait, c'est tout bénef pour eux, quoi.
Ok. Est-ce que, Guillaume, tu veux échanger, toi, sur ton expérience Magic et sur ton parcours?
Ah oui, d'ailleurs, Guillaume, tu pourras parler aussi du cube old school, ce qu'on a appelé la péricube.
La péricube. Moi, mon expérience Magic, c'était au collège, tout simplement. Ce qui est logique, Lou, il est un petit peu plus vieux et je pense qu'on a découvert à peu près en même temps, sauf que lui, il était au lycée. Nous, on était au collège. Moi, par contre, c'est pas arrivé en remplacement. Enfin, ça m'a pas fait sortir du jeu de rôle. Tout est arrivé en même temps. Je suis passé de HeroQuest à Warhammer, les jeux de rôle et Magic. Pour moi, ça paraissait logique, quoi, tu vois.
Tout le triangle magique.
Le triangle des Bermudes, quoi, tu vois. mes résultats scolaires sont partis en couille à partir de ce moment-là. Bref, voilà, j'ai découvert Magic à peu près au collège, donc en jouant dans la cour de récré. J'ai jamais fait de tournoi. C'est pas du compétitif, moi, c'était que du fun, tout le temps. Tout le temps du fun. Je joue encore, ouais, j'ai joué pas mal à Arena, mais je joue surtout depuis quelques années en draftant, en faisant des wedges, on dit des wedgies en jouant avec le cube de Balou.
On peut même faire un diminutif encore plus, hein, Guigui, un petit wad dimanche.
Un petit wad dimanche, ouais. Et donc, voilà, j'avais quitté l'univers de Magic pendant des années, je m'y suis remis il y a quelques années. Avec Balou, justement, on jouait des decks old school. Et après, alors, on s'est mis à drafter.
Old school, c'est une appellation d'origine contrôlée. Hein. Et deck old school, il y a un vrai format comme ça qui existe avec des vrais tournois. Jouer que des cartes de 1993 et 1994. Quoi.
Ah oui, c'est vraiment première génération, quoi.
Ah,
c'est
old school. Quoi.
Old school.
Ok. Non, mais il aurait pu y avoir une barrière plus haut. Moi, je m'attendais à avant 2000 ou un truc comme ça, quoi. Bon, là, c'est ça doit commencer à coûter cher, d'ailleurs, parce que c'est
là, typiquement, c'est les tournois où ils commencent à réfléchir à permettre les proxys, quoi. Parce que old school, bon...
Puis ils commencent peut-être à décéder, les joueurs de...
Ah bah ouais, et puis tu vends un rein pour avoir le deck, quoi.
Je sais pas si vous avez d'autres choses à évoquer sur Magic, on a bien fait le tour. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'on ait quand même une porte d'entrée aux débutants. Alors, je sais pas si c'est possible pendant la route du rhum d'avoir...
Bah justement, j'y venais.
Justement,
j'y venais, en parlant donc de ces decks old school qui m'ont... amené après à Balou, on a joué avec son cube. On a eu l'idée il y a quelques temps, on a créé tous les deux chacun ensemble, mais on a tous les deux le nôtre. On a fait un cube old school, donc qui va de 93 à 95, je crois.
On
est allé un peu plus haut.
Jusque juin 1996, c'est-à-dire la sortie de Alliance.
Alors qu'est-ce que tu lui as mis dans son cube?
Alors le principe, c'était de jouer avec les cartes de notre enfance, enfin de notre jeunesse, c'était de retrouver, de jouer avec ces mêmes cartes, quoi. L'avantage que ça a, déjà le cube est plus petit, c'est 360
cartes, c'est-à-dire qu'il est draftable pour 8 personnes.
Et l'avantage que ça a pour la route du Rhum ou pour les débutants, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Il y a beaucoup moins de règles. Pour le coup, on reste quand même à « j'engage du mana, je pose une bête ». Il n'y a pas un milliard de règles qui se sont rajoutées au fil des ans, de règles spéciales, de capacités spéciales.
Ouais, c'est les fameux traits dont on parlait, les mots-clés, là.
Là, il y en a 5, quoi.
Flying, trample, vigilance, point.
Ouais, voilà. Donc, c'est surtout pour des gens qui ont l'habitude de deck building ou de deck combo. Là, ça parle tout de suite.
Ok. C'est... Et donc vous aurez ça sur le prochain Wii, sur le week-end du 11 novembre, là vous l'aurez le.
Ah, on aura les deux.
On va venir. Ouais, on aura les deux.
Donc on peut venir vous voir et faire en dehors des heures de tournoi. Hey, je voudrais apprendre à jouer.
carrément. Ben, ouais, avec pas, plaisir, carrément. Pourquoi pas.
En fait, je vais organiser un gros événement du Wajik le vendredi, je pense. Soit le vendredi, soit le samedi, je n'ai pas encore vraiment décidé. Mais il n'y aura qu'un seul gros Wajik, parce que la route du Rhum, c'est découvrir plein de jeux, et ce n'est pas la fête de Wajik. Donc on va faire un Wajik le vendredi, certainement, en après-midi. Mais après, on aura aussi le cube old school qu'on va pouvoir sortir à 2h du mat avec les derniers burrachos et ceux qui ont envie de jouer.
Ça, c'est quand en face, il y a une table d'horreur à Arkham qui se lance.
Exactement.
Par
exemple, nous, on lance old school. On lance la péricube dans ces cas-là, quoi.
Ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas fait ces week-ends. Ça fait, enfin, moi, j'ai hâte. Hein. C'est...
Ah bah là,
c'est pire que ça, là.
J'ai commencé les questions du grand quiz. Je vous rappelle que ça fait deux grands quiz que personne n'arrive à répondre sur Torg, le jeu de rôle de la guerre des éternités. Donc je vous donne un petit tips. Hein,
oui.
Torg. C'est Torg. Torg le meurtrier.
C'est le jeu de rôle français, c'est ça?
Non, il n'est pas français, mais c'est le jeu de la guerre des réalités. À chaque fois que je le sors, personne n'est foutu de le sortir, donc je vais recommencer jusqu'à ce que ça marche.
Ah, Torg. Moi, je réponds Torg à chaque fois. Torg. Torg.
La mer noire. La mer noire. Noir.
Bon, voilà. c'est le moment peut-être de clôturer ce numéro 17 qui ouvre cette belle saison, et une saison sympa parce qu'on va se retrouver pour jouer. Ça, c'est plutôt cool.
Juste Ben, ouais. est-ce qu'il y aura un Formule AD?
Ouais, je pense.
Ah, ouais. Je crois que tout le monde...
J'ai regardé d'autres jeux et tout, mais je pense que c'est important et les gens demandent, en fait. Et puis c'est super, on fait assez court quand même pour jouer.
Et il est bien adapté, quoi.
Ouais, il y aura un tournoi de Formule D, je pense. Ouais, je vais le faire. C'est le moment de clôturer ce numéro. Quelques petits... Peut-être vous avez un petit bisou, un petit... je sais pas. Guillaume?
Eh ben, vivement la route du Rhum de novembre.
Oh mon Dieu, il faut absolument qu'il y ait plein de fûts de bière là, parce que 3 jours, c'est un fût en plus, hein. On est d'accord. Hein.
C'est 3 nuits, hein. Donc c'est 3 jours et demi en fait. C'est...
Ah, ça va être...
Ça va être trop bien. On va fumer à l'intérieur. On va foutre le bordel.
Je crois que c'est prévu un feu de camp au milieu de la salle.
Je peux ramener du LSD, moi. J'ai un pote là qui a ça, là, si ça vous intéresse pour la route du Rhum, ça va être carrément génial.
Malheureusement, je connais pas cette technologie. Mais...
je sais pas si on a les budgets.
Moi, je veux juste vous glisser deux petits trucs. C'est que du coup, je vous ai recommandé le podcast sur Tolkien, dont on est assez fiers. Il y a eu après la route des chansons nulles, volume 3. On a vraiment une équipe de ouf hein, pour les chansons nulles, donc c'est vraiment des trucs à pas rater. Voilà, peut-être pas s'écouter d'une traite, hein, c'est peut-être un peu violent, mais voilà. Une petite heure de chansons nulles, avec des trouvailles incroyables. Là, on démarre une nouvelle saison, donc il y aura des choses. Mon planning est plein à craquer, je vais avoir du mal à tout rentrer. On a pour ailleurs d'autres podcasts, je vous conseille, il y a la route du ciné-club, donc notre ciné-club avec mes cousins. On a parlé du King Kong de 1933, on s'est fait bien plaisir, donc ça va reprendre normalement vers la fin du mois, avec du Buster Keaton. et non sans émotion que j'ai lancé également vers la fin de l'été sur un coup de tête, Van Damme Express. Voilà, qui est un podcast dédié à Jean-Claude Van Damme.
Arrête, je les ai tous revus sur Netflix là.
Mais oui, c'est ça aussi qui m'a mis le truc, c'est qu'ils sont, ils ont tous été balancés sur Netflix, Amazon, enfin tu les retrouves tous en fait.
Moi j'ai été élevé à ça, si tu veux, je regardais ça, ensuite je regardais mon frère, et paf, j'ai foutu une patate dans la gueule, mais et puis on se battait.
Tu faisais le grand écart facial suivi de.
Ah, moi j'adore.
Et en fait. Donc, je suis retombé sur deux. Je m'en suis enchaîné en boucle 3 ou 4, et du coup, je me suis dit, purée, il faut que j'en parle. Et du coup, c'est des petits numéros de 5 minutes. Chaque épisode, c'est un film, et puis je les classe. Et tous les 15 jours, vous pouvez retrouver Van Damme Express.
Ça va, Express, c'est 5 minutes. Tu sais qui c'était, Tempo, en fait, en vrai?
C'est quoi?
Tu sais qui c'était, Tempo, en vrai, dans le film?
Oui, c'est Michel Kissy.
Ouais, le rebeu, là.
Ouais, c'est son pote d'enfance,
ouais.
En fait.
Ouais, c'est ça, tout à fait.
Vous allez chercher Van Damme Express, je le mettrai dans les liens et vous verrez. Pour l'instant, je suis à 4 films et pour l'instant, c'est Time Cop qui est en tête.
Et tiens, sinon, si t'aimes bien les chansons nulles, alors je te recommande fortement un album que j'ai découvert cet été qui est juste une tuerie incroyable. Et il y a un côté, c'est pas nul, hein, c'est génial, mais je sais pas si tu connais un petit peu Philippe Catherine.
Ouais, mais Philippe Catherine, c'est pas nul, c'est bis. Enfin, c'est juste.
Mortel. C'est juste mortel. Et est-ce que t'as entendu ces 52 chansons dans l'espace ? C'est 52 reprises dans l'espace.
Non.
Alors, est-ce que tu as un compte, quelque chose, pour écouter du son
Bah, est-ce qu'il est sur Spotify ou Deezer
Ouais, alors, okay. Je crois qu'il est mal classé. Donc, cherche bien, c'est un album avec lui, mais c'est pas forcément de lui, quoi. 52 reprises de chansons françaises et que des trucs, tu sais, qu'on marchait, mais tu sais, qui sont vieillissants, ou tu sais, et lui, il te les reprend.
Il te les remet au bout du jour.
Ah, mais à tomber par terre, mais tu sais, avec une désinvolture et un petit côté foutage de gueule qui lui est bien propre. Ouais, j'ai fait écouter à Guigui un peu, j'adore.
Ce qui est bien, Catherine, c'est que c'est foutage de gueule, mais il y a toujours un peu de respect, tu sais, il est lui-même un peu dans le décalage, donc c'est plutôt. Bah écoute, je vais être client, moi je fonce.
Ah bah tu il y a un clip ou deux, tu vois, tu regardes Philippe Catherine à 52 reprises dans l'espace, tu dois avoir un clip ou deux, ça donne le ton déjà direct, quoi.
Par contre, Guillaume, moi j'ai balancé du Van Damme, lui Philippe Catherine, t'as pas un truc.
Alors si, moi j'ai du lourd, ma chanson de merde depuis quelques temps, c'est L'enfant handicapé de Polo de Domoy.
Voilà. Ils l'ont déjà fait.
La route des chansons nulles, volume 1.
Ah, merde. Oui,
et dans la route des chansons nulles volume 3, il y a un autre Polo des Domois, c'est je crois le rap d'un enfant. Voilà.
Je pensais que l'album s'appelait Le rap d'un enfant handicapé. Mais en fait non, c'est parce que c'est la face B du disque et comme c'est un disque double passe, c'est le rap d'un enfant et ensuite il y a marqué l'enfant handicapé.
Oui, donc, c'est 45 tours donc ouais, c'est la face B.
D'une naïveté incroyable.
Mais ce qui est incroyable, c'est en fait, bon, je vous ramène à parfaire, mais c'est la route des chansons nulles volume 1. On parle beaucoup de ça. C'est un courant qui n'a pas duré très longtemps en France, qui est le courant des chanteurs réalistes. Et du coup, il y a eu 2 ou 3 ans, c'est un truc fulgurant, avec des chanteurs comme ça qui parlaient de sujets graves au premier degré. C'est vraiment. C'est sec. Hein. Je propose qu'on clôture le podcast. Vous avez écouté ce super générique de fin. On se retrouvera normalement d'ici un mois avant le. J'aimerais bien en faire un, voire deux avant le. La route du Rhum, on va voir. Et juste après, vous entendrez Raphaël, qui est mon fils en fait, et qui va. Que j'ai enregistré, parce qu'il voulait parler, il voulait participer, c'est un peu tard pour lui. On enregistre, il est quasiment 11h. Mais il voulait parler de son expérience et sa découverte du jeu. Voilà, sur Magic. Bon, ouais. On écoutera après le générique.
Bon,
et Alexandre, et Guillaume, merci.
Merci alors. À vous deux et puis à bientôt. Hein.
Allez, salut, ciao.
Allez, salut. Ciao.
Alors, je suis avec Raphaël. Salut Raphaël.
Salut.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Raphaël, j'ai 10 ans et je vais vous parler de comment j'ai découvert Magic, pourquoi j'aime et les decks que j'ai créés, que moi et mon père avons créés.
Ouais, tous les deux. Donc du coup, comment t'as découvert Magic ? T'es revenu un jour de l'école en disant « Papa, on a joué un jeu, c'est assez chouette, ça s'appelle Magic. »
Ouais. Et après, du coup, je faisais que d'en parler. Et du coup, à un moment, il y a un jour, on passe devant les temples du jeu.
Donc, il y a une boutique de jeux à Nantes.
Oui. Ouais. Et je fais, papa, on peut aller acheter 2 decks de Magic. Et du coup, c'est là qu'on s'achète un plaine et montagne.
Voilà, un starter deck. En fait, du coup, il a découvert ça en périscolaire, parce que du coup, il y a des animateurs qui sont aussi assez geeks, qui jouent à Magic, etc., et qui sont achetés des kits de démonstration, qui sont, je crois que les boutiques les donnent gratuitement, les kits de démonstration. Et donc, on a acheté un starter kit. Alors, c'est génial, ça coûte 8 euros, on a deux decks différents, on peut tout de suite s'affronter. Et après, on en a acheté un deuxième, avec d'autres couleurs.
Avec marais et forêt.
Alors, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans ce jeu, et qu'est-ce qui t'a vraiment excité et qui t'a donné envie d'approfondir un peu ?
En fait, ce qui m'a plu dans Magic, c'est de pouvoir créer des monstres, invoquer des monstres. L'idée du sorcier, en fait, déjà, j'aime bien l'idée de pouvoir... à base de terrain, créer des monstres, quoi. Ça me plaît.
L'invocation.
Oui.
Ouais.
Et aussi, j'aime bien les jeux de cartes et de baston.
Et de deck building.
Oui.
Parce que, du coup, une des choses que tu as fait après, c'est que tu as voulu mélanger deux couleurs pour...
Oui, j'en avais marre. Je faisais que de le battre. Et du coup, j'en avais marre. Je voulais mélanger les decks. Pour que soit lui il fasse un deck plus fort que moi et du coup que j'élabore une nouvelle stratégie pour le rebattre, soit je reste toujours plus fort que lui et c'est juste un coup de chance.
Bon, conforter, enfin surtout expérimenter un peu quoi, c'était ça qu'on voulait faire.
Ouais.
Ouais. Bah du coup, oui, alors le starter deck montagne est vraiment très fort, donc ou alors le starter plaine est compliqué à jouer au choix. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup perdu avec le starter plane contre lui. Et avec les decks mélangés, c'est vrai que ça crée d'autres situations de jeu. On explore aussi des combos de cartes. C'est assez intéressant.
Oui.
Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais faire, toi ? Est-ce que tu aimerais continuer à jouer avec Magic avec les copains ? Explorer d'autres couleurs
Là, il ne manque plus qu'une couleur, c'est la bleue. Et j'irai si un jour j'ai envie de l'avoir. Mais oui, j'ai très envie de l'avoir. Et si un jour je reprends des cartes magiques, c'est le starter deck bleu en premier. Parce que c'est le seul qui me manque.
C'est encore une autre façon de jouer un cinquième type de jeu. Hein.
Oui, de toute façon, tous les types de jeux sont différents dans Magic.
Ok. Non, mais je trouve que c'était intéressant de t'entendre. Donc, un point de vue d'un jeune joueur qui découvre le jeu depuis quelques mois, donc c'est chouette.
Quelques années.
Oui, ça fait un an, un peu plus d'un
deux
an.
Ans.
Maintenant, deux ans. En tout cas, merci pour ta participation. C'est toujours un plaisir. Et on t'entendra très bientôt de nouveau à ce micro.
Ouais.
Au revoir tout le monde.
Au revoir.